Chapitre 23. Nous sommes le 2 novembre, jour des défunts dans la tradition chrétienne. Pour le cimetière qui se trouvait face à la maison où j'ai grandi, de l'autre côté de la route, c'était le plus beau et le plus vivant des jours de l'année. Les fleurs déposées sur les tombes, les allées et venues incessantes des familles endimanchées, le changeaient en un parc coloré fréquenté comme une promenade, dont les abords étaient embouteillés d'automobiles et duquel toute tristesse et toute affliction semblaient bannies. Dans une heure à peine, commence le premier jour de tournage de La Fabrique intérieure. Devant moi, Eugène est toujours attablé à sa terrasse de café et regarde un peu au loin, sur sa droite, avec un demi-sourire apaisé. Il n'a pas pris une ride. Ce matin, j'aimerais qu'il tourne sa tête vers moi pour une fois, que je puisse, les yeux dans les yeux, lui dire « Ça y est, tu vois, tu serais heureux, tu serais fier, tout recommence. Je m'y suis remis, tu n'es plus là, mais je continue comme je te l'avais promis. » J'entends au travers du plafond des bruits de pas, des chocs, des voix, dont je ne perçois que les rumeurs et les vibrations, une précipitation heureuse et très organisée. Mon équipe met la dernière main au préparatif sur le décor principal, qui est l'appartement de Paul. J'ai choisi Eric Ruff pour interpréter Paul. Depuis longtemps, je suis fasciné par ce comédien de la troupe du Français qui y a joué et a signé des mises en scène et qu'il dirige désormais. Par son physique intense et dévoré, il me rappelle sous certains angles l'Antonin Artaud du Napoléon d'Abel Gance. Je le connais peu. Il est timide et discret. Lorsque je les ai fait se rencontrer pour la première fois, Michel Piccoli et lui se sont regardés un très long moment, sans se parler, sans être capables de se parler. Et j'ai regretté ce jour-là de ne pas avoir pris de caméra, tant il y avait d'épaisseur humaine dans ce premier rapport muet. Eric est déjà sur le plateau. À ma demande, Kim Sour a loué pour ce décor l'appartement de M. Bellagard, mon vieux voisin du 8e, que j'ai aperçu un matin tandis qu'il déménageait sur le trottoir devant l'immeuble. Il attendait que le camion se remplisse, assis sur une chaise de cuisine à côté de son piano. Il a levé son chapeau quand je l'ai salué. Nous nous sommes souris. C'est à ce moment seulement que je me suis rendu compte que jamais nous n'avions échangé un seul mot. Je me suis dit qu'il était un peu tard pour commencer. Peut-être ai-je eu tort. Derrière moi, tandis que j'écris ces dernières lignes, sur un des canapés est assis Michel Piccoli. Il attend, enveloppé dans un peignoir en éponge blanc, comme un boxeur dont on préserve la chaleur musculaire avant qu'il ne monte sur le ring. Je m'apprête à le filmer nu. Lorsque Paul, ayant ouvert les emballages qui conditionnaient la créature robotique qu'on vient de lui livrer, la découvre immobile et sans atour aucun. La caméra va faire autour de son corps d'octogénaire un lent travelling hélicoïdal. Michel le sait, il en est d'accord. Il comprend que le plan doit dessiner la surface d'un corps que l'âge a marqué et qui se confond avec l'étendue limite de la vie humaine et qu'au-delà, peut-être, au-delà de la peau magnifiquement fatiguée, des muscles et des os usés, des chairs distendues, commence possiblement le domaine de Dieu. À cet instant, j'imagine qu'il feuillette un des livres posés sur la table basse, et parmi eux, celui que j'ai placé volontairement en évidence, consacré au sculpteur Ligier Richier, dont le transi de l'église Saint-Étienne de Bar-le-Duc figure un mort présenté debout, partiellement encore revêtu de l'habit du vivant, chair, cheveux, tendons, qui dit bien ce que nous fûmes et ce que nous serons, et dont le corps perdu, recueilli dans la finesse du marbre évidé par l'artiste, témoigne tout à la fois de notre disparition, mais aussi de l'amour de ceux qui nous survivent et grâce auxquels nous survivons, puisque l'œuvre fut commandée par celle dont l'époux, René de Châlons, prince d'Orange, compagnon d'armes de Charles Quint, venait d'être tué au combat sous les remparts de Saint-Dizier en 1544 et qui a demandé au sculpteur cette toute jeune veuve, de représenter l'être aimé et perdu comme il serait après 3 années passées dans son tombeau sous la terre froide de Lorraine. Et me reviennent alors quelques vers, dont je ne sais plus s'ils sont d'Ovide ou d'Épicure, ou si je les ai rêvés, comme il m'arrive de rêver des dialogues, des bribes de conversation, des titres de livres ou des scènes de films. Mon corps, vieux compagnon, ainsi donc est venu le temps de nous quitter. Mais peut-être le comédien qui s'apprête à incarner ce dieu robot, dans lequel sera versée toute la mémoire du monde, ses complexités, ses incohérences et ses espoirs, regarde-t-il plutôt Elena, qui, étendue sur l'autre canapé en vis-à-vis, ainsi qu'elle aime être, allonge ses longues jambes sur les coussins indonésiens, chamarrés de fils d'or et de fibres de bois, que j'ai rapportés du pays Toraja, et m'observe à ma table, occupée à écrire ses dernières lignes, avant d'abandonner dans quelques minutes l'ordinateur et les mots, pour n'être plus qu'un petit faiseur d'images. À quoi donc songe-t-elle en me voyant ainsi de dos, me détachant sur la fenêtre, sur le ciel de novembre où passent des nuages gravides, des pluies qu'il réserve à d'autres paysages? Je l'imagine les deux mains posées sur son ventre qui commence à s'arrondir, cherchant sous sa paume les mouvements intérieurs, lents et parfois saccadés, de la petite créature encore endormie, yeux clos, flottant dans une sorte d'apesanteur au sein d'un liquide obscur et chaud, vierge de toute mémoire, de toute émotion et de toute douleur, et en laquelle la miraculeuse conjugaison du vivant a marié nos deux êtres distincts. Il me semble désormais que je n'aurai plus d'autre âge que le sien, et qu'oubliant mon corps, oubliant qui je suis, oubliant mes maux et mes hésitations, mes erreurs, mes blessures, je serai tout à elle, afin qu'elle puisse vivre, aimer, rire, s'éblouir et grandir jusqu'au ciel. Lorsque, au tout début d'octobre, je relisais les épreuves de ce livre, j'ai appris la mort accidentelle d'Isabelle Collignon, qui était libraire à Chamonix. J'en ai été vivement ému. Isabelle aimait les siens, Isabelle aimait la vie, sa belle vallée et ses montagnes, la littérature qu'elle défendait sans relâche. Elle n'aura pas pu lire « L'arbre du pays Toraja » comme je l'aurais souhaité, mais en manière d'hommage affectueux, qu'elle soit accueillie dans ses pages, elle dont je garderai le souvenir constant et doux de son sourire. Philippe Claudel.